également sur le front social. Il va y avoir de la formation de militaires également soutenus à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Et puis, très important, des munitions, des obus de 155 mm, la denrée qui manquait véritablement aux brigades ukrainiennes ces derniers temps. Et on se penchera également de manière très très importante sur la question des systèmes de défense antiaérienne. Les villes ukrainiennes sont de plus en plus bombardées. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a une alerte antiaérienne sur la capitale ukrainienne, Kiev. Et puis, il y aura également des choses autour du déminage et autour également des missiles de longue portée, les fameux ATACMS américains qui permettraient de toucher des centres de logistique et des centres de munitions russes dans la profondeur à l'arrière des lignes de front.
On va revenir aux besoins matériels de l'armée ukrainienne, Stéphane Sihan, mais dites-moi, vous êtes présentement sous le coup d'une alerte d'attaque de missiles russes. Comment ça se passe à Kiev quand on vit ça?
Alors, il y a deux choses. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais en reportage à Kharkiv, la deuxième ville du pays, 1,5 million d'habitants, qui est au nord-est du pays, à 40 kilomètres de la frontière russe. Ici, à Kiev, la capitale, on est un petit peu plus protégé parce que nous ne sommes pas près de la frontière russe ou d'une ligne de front. Mais il y a quelques minutes, les téléphones portables ont résonné. Il y a une alerte qui a été lancée. Quand on est dans le centre-ville, on l'entend dans les rues par des haut-parleurs. Et puis, il y a des systèmes d'application sur les téléphones portables qui demande aux gens d'aller se mettre à l'abri. Alors, normalement, la règle qui doit être suivie par la population, c'est d'aller dans une cave, dans un abri antiaérien, dans le métro le plus proche. Maintenant, vous savez, après 2 ans de guerre, les Ukrainiens se sont également habitués à cette situation, donc on ne descend plus systématiquement aux abris, comme on le faisait peut-être au début de la guerre. Mais en tout cas, voilà, il y a des bombardements qui sont réguliers. Ils n'ont pas été très récurrents sur la ville de Kiev, mais je peux vous dire que la semaine dernière, j'étais à Kharkiv, la deuxième ville du pays, et là ce sont des bombardements absolument quotidiens, des bombes volantes qui tombent sur la ville, également des missiles de précision, des drones suicides, et pas plus tard qu'aujourd'hui à Kharkiv, donc la deuxième ville du pays, la tour de la télévision de cette grande métropole a été abattue par un missile de croisière russe.
Ok, revenons aux besoins de l'armée ukrainienne, Stéphane Sihan. Ce que les Américains vont envoyer, c'est une chose de donner le feu vert, mais entre le feu vert et l'utilisation sur le terrain, sur le champ de bataille, il risque de se passer combien de temps?
Alors, quand on discute avec les experts militaires, il semble que ça peut aller assez vite. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bien entendu, on attend la décision du Sénat qui doit entériner le vote du Congrès de samedi dernier. Mais une fois que le Sénat aura entériné cette décision pour le paquet de 61 milliards, ça pourrait aller très vite. Parce que tout simplement, le Pentagone a déjà prévu cette situation. On voit qu'il y avait un blocage politique. Mais il est fort à parier que l'appareil militaire américain a déjà préparé la logistique afin de pouvoir délivrer le moment venu ces livraisons militaires à l'Ukraine. En plus, on sait très bien qu'il y a une grande partie de ces équipements, notamment les réserves en munitions, les obus de 155 mm, qui se trouvent sur des bases de l'OTAN en Europe. Ça peut être en Allemagne, ça peut être en Italie, en Pologne, en Roumanie. Donc dès que les États-Unis auront le feu vert au niveau politique, ils pourront mettre en place ces convois depuis l'Europe vers l'Ukraine. Donc en fait, on estime que peut-être d'ici à une semaine, les premières munitions pourraient arriver dans les brigades ukrainiennes.
Ce dont manque l'armée ukrainienne, là, il y a eu plusieurs reportages médiatiques ces derniers temps. Là. D'abord, on manque de soldats, on commence à manquer de soldats, toutes sortes de systèmes de défense, de missiles, d'obus, etc. L'avantage des Russes, vous me parlez des obus tantôt, Stéphane, une fois que l'aide américaine va être sur place, est-ce que cet avantage-là devient neutralisé?
Alors, je ne suis pas un spécialiste de mathématiques des affaires militaires, mais en tout cas, ce qu'on peut prévoir, c'est qu'il va y avoir une remontée en puissance de l'Ukraine sur la question des obus. D'après beaucoup d'experts à Kiev, et notamment le chef également du renseignement militaire ukrainien, Kirill Budanov, on peut s'attendre à une offensive russe qui interviendrait à la moitié du mois de mai ou au mois de juin. Ce qui va sans doute se passer, c'est que l'armée russe va tenter de s'emparer des derniers recoins du territoire administratif de la région de Donetsk, dans le Donbass, qui sont encore dans le giron ukrainien. Donc il va y avoir une poussée qui va arriver à ce moment-là. Si jamais il n'y avait pas eu d'aide militaire américaine, il est fort à parier que les Ukrainiens n'auraient pas été en mesure de repousser cette offensive. Maintenant, ils vont pouvoir tirer de manière supplémentaire. Moi, j'ai discuté avec des soldats il y a à peu près 2 semaines qui m'expliquaient qu'il y a un an, ils étaient en mesure de tirer 150 à 200 obus de 150 mm par jour. Et dernièrement, ils étaient rationnés à 10 ou 15 obus par jour. Donc, vous voyez la chute qu'il y a eu véritablement en termes de ressources. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de nouveau des obus dans les brigades. Les obusiers vont pouvoir tirer et sans doute résister à cette offensive. Par contre, il est trop tôt pour dire si les Ukrainiens peuvent à leur tour repasser à l'offensive, regagner du territoire, si déjà ils maintiennent leur position et redonnent de l'oxygène à leurs soldats, ce sera déjà une bonne chose.
Dernière question, Stéphane. L'aide est venue tardivement. On sait qu'il y a une poignée de républicains là qui faisaient de l'obstruction à la Chambre des congrès, à la Chambre des représentants du Congrès. Est-ce qu'on peut dire que les hésitations des États-Unis ont coûté des vies ukrainiennes?
Oui, absolument. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui font leur la déclaration du Premier ministre polonais Donald Tusk, qui a déclaré dimanche, si je ne m'abuse, qu'il vaut mieux que cette aide arrive tard plutôt que trop tard. Alors je pense que c'est vraiment le sentiment qui prévaut. Néanmoins, il y a quand même une certaine amertume parce que depuis 6 mois, l'armée ukrainienne a perdu énormément de soldats. Il y a beaucoup de brigades qui sont parties au combat sans avoir les moyens nécessaires. On voit également qu'il y a eu une déperdition des capacités de défense anti-aérienne de l'Ukraine et ça a coûté beaucoup de morts chez les civils. Vous avez sans doute entendu parler de cette frappe sur Tchernigiv la semaine dernière, une petite capitale régionale au nord de l'Ukraine, où une triple frappe de missile sur des bâtiments d'habitation a fait 18 morts dans la population. Donc en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a 6 mois de retard et c'est autant de milliers de vies qui auraient pu être épargnées. Donc bien entendu, les Ukrainiens ne vont pas cracher sur cette aide, mais on se demande toujours si les Occidentaux, les Américains, les Européens sont des partenaires sur lesquels on peut compter parce qu'ils arrivent quelque part toujours un peu trop tard.
Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci Stéphane, bonne journée.
Merci, à très bientôt.
C'était Stéphane Sihan qui est journaliste basé à Kiev. Au retour, Sophie Grégoire Trudeau est avec nous.
L'émission de Jean Brisson, une présentation d'Alarme 911 Rimouski. Offrez-vous la tranquillité d'esprit avec un bouton médical d'Alarme 911 Rimouski. Les secours dont vous avez besoin au bout de votre doigt au 88-722-9111.
Printemps rime avec changement. À l'achat de ton véhicule d'occasion de rêve, parmi nos modèles sélectionnés, obtiens 2 changements d'huile et 2 entreposages de pneus gratuits d'une valeur de 299 $. Découvre ta formule printanière dès aujourd'hui chez Formule d'occasion à Rimouski.
C'est fixe. FM 93. Vos idées en liberté. Faites-vous votre opinion. Des animateurs de talent, des chroniqueurs pertinents. Vos idées en liberté avec CFIX FM 93.
Nouvelle régionale.
Voici vos nouvelles du 19 avril 2024. Les policiers de la Sûreté du Québec de Rivière-du-Loup et ceux de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Rimouski ont procédé hier à des perquisitions en matière de stupéfiants à Kakuna. 4 personnes ont été arrêtées. 3 d'entre elles, âgées entre 55 et 51 ans, ont été libérées en attente des procédures. Un homme âgé de 61 ans devait comparaître cet après-midi par visioconférence au Palais de justice de Rivière-du-Loup. Il pourrait faire face à des accusations en lien avec des infractions en matière de stupéfiants. Lors des perquisitions, les policiers ont notamment saisi près de 45 grammes de cocaïne. Le comité citoyen Le Pont de l'Avin, ça ne tient pas debout, qui s'occupe au prolongement de l'autoroute, tire ses conclusions d'une entrevue accordée par la députée de Rivière-du-Loup, Témiscouata, à Amélie Dionne, à la Société Radio-Canada. Le comité estime que Mme Dionne et son gouvernement ouvrent la porte à une route 132 améliorée et sécurisée entre Trois-Pistoles et le secteur du Bic, plutôt que de réaliser à tout prix le prolongement de l'autoroute 20, ce qui réjouit le comité. Évidemment, ce même comité affirme que si la députée ouvre la porte à la 132 améliorée, elle devra automatiquement, du même coup, fermer la porte à la construction d'un nouveau pont qui serait très coûteux sur la rivière Trois-Pistoles. Une institution parmi les établissements de restauration de Rimouski, Presto Pizzeria, change de propriétaire. Celui qui travaille dans le monde de la restauration depuis plus de 35 ans, Michel de Champlain, vient de vendre son entreprise à un cuisinier et ancien employé, Tommy Rioux. Monsieur de Champlain est aussi connu comme ancien propriétaire de la Maison du Spaghetti. Selon Jean-Claude Leclerc du blog Muffin et Café, le restaurant existe depuis 57 ans. Il a été fondé par Roger Thibault. Et finalement, la ville de Rimouski accorde un contrat de 48 000 $ à Construction Albert de Rimouski pour effectuer des travaux d'urgence au complexe sportif Desjardins. Cet exercice est rendu nécessaire à la suite d'une importante fuite de glycol survenue dans les installations du complexe Desjardins au début du mois d'avril. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles sont sur cfxrimouski.com.
CFX 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. CFX FM 93. Arts et spectacles. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp.
Oui, Catherine Beauchamp est là avec une invitée de marque dans sa première chronique showbiz de l'émission, Sophie Grégoire Trudeau, qui est connue d'un océan à l'autre et qui sort ce jour-ci un livre, j'allais dire une biographie, mais c'est plus que
non,
ça, Catherine.
C'est pas une biographie. Ça s'intitule Entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer. C'est vraiment un guide pour trouver l'équilibre, pour apprendre à vivre. Je pense, si jamais vous sentez que vous n'êtes pas très zen avec vous-même, eh bien, vous allez probablement avoir beaucoup de clés qui sont offertes dans ce livre. Là. Mais moi, Sophie Grégoire Trudeau, bonjour.
Juste Sophie. Non, là, j'ai tellement entendu de madame au cours des dernières années, là, je me suis jamais identifiée à ça. Alors, juste Sophie, c'est bien correct.
Pourquoi ne pas avoir écrit une bio sur Sophie Grégoire ou Grégoire Trudeau ou Sophie? Parce que au lieu de faire des conseils de vie.
Mm-hmm. Parce que ce n'était pas le but. Moi, il y a 20 ans, quand je travaillais, j'étais jeune animatrice radio-télé. Quand je commençais, j'ai partagé mon histoire du fait que j'ai souffert de désordre alimentaire. Ça a donné une direction, un sens à ma vie qui m'a donné beaucoup d'intégrité puis de congruence à l'intérieur de moi. Je me suis aperçue qu'en partageant mon histoire, je laissais un espace à d'autres pour le faire. Et j'ai continué, tu sais, à travailler sur ce chemin-là, même si j'étais plus dans les médias de la même manière. J'ai travaillé, je faisais des capsules à Elle Canada, Elle Québec. Je faisais beaucoup de trucs de manière bénévole au cours des 10 dernières années. Et là, je me suis rendu compte qu'avec le temps, ça fait 20 ans que je suis sur le parcours pour mieux comprendre notre santé mentale puis le rouage de notre personnalité en tant qu'être humain, qu'en partageant une partie de mon histoire, ben, je laisse la porte ouverte aux gens d'être assez vulnérables et de se sentir en sécurité pour pouvoir partager la leur. Mais aussi que tous les experts que j'avais rencontrés sur mon chemin, extraordinaires et les meilleurs dans leur domaine, qui nous démontrent avec la science puis la recherche comment mieux se comprendre. Parce que tout le monde, il y a tellement de gens dans notre société qui doivent composer avec le stress, l'anxiété, la dépression. On est dépassé par les événements de la vie, par les crises auxquelles il faut qu'on fasse face. Et entre vous et moi, juste ici dans le studio, là, est-ce que vous êtes capable de dire que sincèrement, vous avez la capacité de réguler votre propre système nerveux en situation de stress, de voir les émotions monter, de savoir les rattraper, d'être capable de régler un conflit quand ça ne nous tente pas, ou d'être à l'écoute profonde au lieu de vouloir parler puis prendre la parole?
Le livre me semble être une recherche, c'est aussi la quête d'une recherche d'équilibre. Est-ce que vous avez manqué d'équilibre dans votre vie?
Je pense qu'on manque tous par moment d'équilibre. On n'est pas venu sur la planète Terre, à mon avis, pour être des êtres heureux, tout est rose, tout est beau. On est en quête d'une prise de conscience et le processus d'individualisation, c'est une responsabilité. Si tu regardes l'état du monde aujourd'hui, que ce soit dans les leaders ou des présidents de compagnie ou des enseignants, des travailleurs, les gens, la maladie mentale et les troubles de problèmes mentaux sont la première cause d'absentéisme au travail. On fait face à une crise. Elle était là il y a 20 ans, mais là, avec la pandémie, ça s'est exacerbé.
Mais vous comprenez que, tu sais, je trouve que c'est bien intéressant d'avoir voulu donner ces conseils-là, mais peut-être que les gens sont assez curieux après votre passage comme première dame au Canada, auraient aimé ça peut-être avoir peut-être une coulisse de ce que c'est être une première dame. Vous aviez vraiment pas envie d'aller là?
Bien, premièrement, je me suis jamais vue comme une première dame. C'est pas comme ça que je me définis en tant que personne. Je joue pas de rôle. Je reste la Sophie que je suis dans le contexte qui m'est amené. Et j'ai beaucoup appris au cours des dernières années. Et ce qui me définit dans mon travail, c'est ça. Ce n'est pas un rôle de première dame. Alors, pourquoi est-ce que j'irais partager quelque chose qui ne m'appartient pas, qui n'était simplement comme une espèce de co-accompagnement d'un partenaire qui faisait cette job-là? Alors, l'intégrité est beaucoup plus sur le chemin que j'avais déjà emprunté et que j'ai continué à...